Bon vendredi matin, tout le monde. Début officiel de la semaine de relâche. Je sais que nombreux sont en train de se préparer à cette fameuse semaine qui dure presque 10 jours, finalement. Alors, si vous avez plein d'activités prévues cette semaine, tenez-nous au courant. Vous pouvez m'écrire à isabelle@985fm.ca. On aura beaucoup de discussions là-dessus au cours de la semaine prochaine, c'est sûr. Vous me direz ce que vous faites, qu'est-ce qui vous occupe. Ce qui nous occupe ce matin, pour vous, on va parler d'argent en deuxième heure d'émission, entre autres de REER, de ce lit, de vos économies. Il sera également question de cinéma. Vous me direz si vous avez l'intention d'aller voir un film puisqu'il rouvre les salles de cinéma. En tout cas, elles rouvrent pour certaines à partir d'aujourd'hui. Mais ce qui nous occupe beaucoup comme discussion en première heure d'émission, et c'est ce que je vous propose, c'est ce fameux passeport vaccinal qui fait de plus en plus son chemin. Puis avouez qu'il y a une semaine, c'était une idée comme ça. On parlait du passeport vert, là, une espèce de passeport, je vous fais ça rapide, là, qui vous permettrait, si vous êtes vacciné, de montrer patte blanche. Ça peut aller, on parle de possible passeport vaccinal pour aller assister à des événements dans le cadre, par exemple, de festivités estivales, là, cet été au Québec. Est-ce que on devra montrer aux organisateurs d'événements, de grands événements l'été prochain, un passeport pour pouvoir aller profiter de spectacles de musique, par exemple, ou encore pour voyager. Ça, au niveau des voyages, il y a d'autres pays qui ont embrayé le pas là-dessus, là, qui vont assez rapidement, d'ailleurs. On pense à Israël. Vous savez qu'on dit souvent qu'Israël, presque une majorité de citoyens sont évidemment tout petit pays, on s'entend, majorité de citoyens déjà vaccinés, ou le passeport vaccinal est demandé et permet donc d'assister à des concerts, permet de voyager, de sortir et d'entrer au pays. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je vous avoue, j'ai cheminé vite parce que l'actualité nous force à y penser rapidement. J'étais plutôt pour ça, a priori, quand j'ai lu les premières choses là-dessus. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce fameux passeport qui serait comme une espèce de clé pour vous permettre de revenir à une certaine normalité. C'est un peu la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On s'en était parlé il y a une dizaine de jours et j'avais eu beaucoup de gens là, qui me disaient « oui, sans aucun doute, je suis en faveur ». Aujourd'hui, il faut qu'on en discute parce qu'il y a un débat éthique à faire. Il y a un débat sur le droit de certains, les privilèges aussi. Voyager, c'est pas forcément un droit, c'est plus un privilège. C'est un privilège aussi qui est lié à votre condition économique. Tu sais, si t'as pas une scène, tu peux pas voyager. On pourrait débattre de ça aussi. C'est donc un privilège de voyager. Mais est-ce que ce privilège-là devrait permettre à des gens, peut-être plus en moyen, de faire des choses que les autres, plus démunis, ne peuvent pas faire? En d'autres mots, est-ce qu'un passeport vaccinal, ça va pas créer deux types de citoyens dans un contexte de pandémie? D'abord, est-ce que aussi ça ne crée pas un faux sentiment de sécurité? Et c'est là que je voulais qu'on en discute avec un virologue. Il est professeur au département de sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Benoît Barbeau est avec nous ce matin. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Madame.
Dites-moi, Monsieur Barbeau, est-ce que, d'après vous, le passeport vaccinal, c'est une solution pour revenir à une certaine normalité? C'est vraiment la question que je pose à mes auditeurs ce matin.
Oui. Une solution, je ne crois pas que c'est la solution. Il faut quand même toujours, on comprend là qu'il y a quand même des avantages possibles à l'utilisation de passeport. On entend parler dans d'autres pays. Il y a plusieurs pays qui ont évoqué cette possibilité. Il y en a qui l'utilisent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et plus particulièrement pour les voyages à l'extérieur, lorsque vous avez un tel passeport, lorsque vous êtes vacciné, il y a quand même, il faut quand même se rabattre sur les données qu'on a. On sait que c'est pas ça protège contre la COVID-19 à un certain pourcentage. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que au niveau transmission, au niveau de votre degré de contagiosité, je peux même dire, les données sont très fragmentaires. On sait qu'il y a une certaine protection, mais c'est aucunement de l'ordre de 100%. En d'autres mots, votre passeport vous dirait que vous avez été vacciné, mais il faudrait que vous compreniez d'une part que vous êtes possiblement contagieux si vous avez été infecté. L'autre point, c'est que en ce moment, on ne fait que recommencer la procédure, la campagne vaccinale. Alors, on est loin d'avoir atteint justement un pourcentage qui nous permettrait d'être plus confortable avec l'idée qu'on a une genre d'immunité collective. Et puis, dans ce contexte-là, avec aussi des allègements que le gouvernement propose et l'apparition des variants aussi qui quand même sèment des inquiétudes, on se doit quand même de réfléchir extrêmement sur l'utilité d'un tel passeport et est-ce que ça nous sera bénéfique et est-ce que ça pourrait plus, pas nécessairement plus nous nuire même dans la lutte actuelle qu'on fait contre le virus de la COVID-19.
Mm-hmm. Ben là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je reprends le premier bout de votre réponse, Benoît Barbeau, où vous parliez de la protection du vaccin. Parce que ça, c'est pas encore clair chez tout le monde. Ce fameux vaccin protège la personne qui est immunisée, là, qui l'a reçue. Mais elle, cette personne-là peut être asymptomatique tout de même, peut quand même le passer le virus si elle est contaminée à d'autres, même si elle est vaccinée. Est-ce que clarifiez-nous ça vraiment pour
Exactement.
Que les gens comprennent.
Donc, écoutez, en ce moment, il y a des données qui semblent suggérer quand même que le vaccin aussi fait en sorte que la personne qui a été vaccinée est moins sujette à transmettre le virus, donc elle est moins contagieuse. Mais ces données-là ne sont pas encore pleinement disponible. Et les pourcentages qui sont sortis sont encore inférieurs à la probabilité que vous allez, vous allez développer des symptômes sévères. Alors, dans ce sens-là, vous recevez le vaccin, mais vous avez qu'il y a un pourcentage de population qui seront quand même contagieuses et qui pourraient transmettre le virus à différents niveaux. Et ça, c'est important de faire la part des choses parce qu'on parle beaucoup de 90% et plus, justement, d'efficacité du vaccin, mais là, on parle d'efficacité du vaccin à vous protéger contre des symptômes sévères de la maladie. Et même parfois, on parle de symptômes un peu plus modérés. Mais pour ce qui est de votre le niveau que vous avez, si vous pouvez être infecté, mais que vous devez comprendre, c'est que vous n'allez aucunement développer des symptômes sévères. Vous allez probablement être infecté pendant une plus courte période de temps, mais n'empêche que lorsque vous êtes vacciné, vous pouvez toujours être infecté et être contagieux à un certain niveau. Et ce pourcentage-là va être sûrement différent du pourcentage qu'on entend parler des gens qui ne développent pas la COVID-19. Alors, c'est quand même un élément important à comprendre et qui doit être plus étudié avant de se dire, par exemple, ben là, en ce moment, on lance la campagne vaccinale. Tous ceux qui ont reçu le vaccin, en tout cas, du moins les deux doses, si on précise, après même le 14 jours, après la deuxième dose, du moins, je ne sais pas exactement où est-ce que le gouvernement va se diriger, recevront un passeport. Il y a quand même, c'est un point, on est en ce moment dans une situation qu'on n'est pas favorisé, quant à moi, c'est mon opinion, de distribuer de tels passeports qui pourrait justement donner une chance à des personnes de se regrouper, de participer à des activités qui seraient à risque justement de transmettre le virus.
Oui, c'est vraiment important ce que vous nous dites, Benoît Barbeau, là, ce matin. Ça nous fait comprendre beaucoup de choses par rapport à la contagion, la transmission. On va revenir d'ailleurs sur les super contaminateurs, mais je veux vous remettre en mémoire à vous puis un peu à tout le monde qui nous écoute ce que disait le ministre de la Santé hier, Christian Dubé, parce que j'ai été très étonnée d'entendre ça. Il fait des liens avec la grippe, la H1N1. Puis pour lui, là, pour le ministre de la Santé, ça semble assez décidé là, qu'on aura éventuellement bientôt un passeport vaccinal.
Pour moi, c'est oui. Je vais vous faire un parallèle avec la H1N1. Lorsqu'on voulait avoir un droit de passage dans un avion, à ce moment-là, on se faisait imprimer un papier, puis on avait une preuve de vaccination, puis on pouvait s'en servir pour prendre un vol. Alors oui, c'est évident qu'il faut le faire. On s'est concentré sur s'assurer que tout le monde partait le processus de vaccination, mais pour moi, un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal.
Très étonnant, cette déclaration de Christian Dubé. D'abord, moi, le premier bout, M. Barbeau, je ne sais pas vous, je fais appel à votre mémoire, parce que moi, dans la mienne, peut-être j'ai été illégale sans le savoir, je voyage beaucoup, là, c'est juste depuis la pandémie que, comme tout le monde, hein, on est coupé de l'extérieur. Mais j'ai jamais voyagé avec un papier qui disait que j'étais vaccinée contre la grippe. Là. Fait que la H1N1, je ne sais pas où il a pris ça, le ministre de la Santé, mais je veux dire, on a cherché ce matin toute référence à un passeport vaccinal dans le cadre de la H1N1. On n'a pas trouvé d'infos là-dessus. C'est quand même le ministre de la Santé qui le dit. Êtes-vous au courant de ça, vous, Benoît Barbeau, que dans le passé, on a déjà eu des gens qui ont dû montrer un papier à la douane pour montrer qu'ils avaient été vaccinés contre la grippe?
Écoutez, moi, honnêtement, je suis mal placé pour savoir si il y avait en effet cette mesure-là qui était appliquée. Je ne me rappelle pas d'un tel processus, d'une telle procédure. Maintenant, ça se peut que ça ait existé, ça se peut que ça ait été appliqué pour certaines personnes. Ça, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Vous êtes pas dans votre mémoire non plus. Moi, je trouve ça très étonnant. Ensuite, on entend dans le ton du ministre de la Santé, oui, c'est chose faite, là. On va en avoir un au Québec, là.
Oh, oui.
Est-ce que vous trouvez qu'on met la charrue avant les bœufs?
Je crois que oui, un peu. Encore là, vous savez, c'est des énoncés. Docteur Arruda avait aussi mentionné quand même qu'il y avait des limitations. Ici, il fallait faire très attention à savoir en termes de l'utilisation de ce vaccin. De ce permis. Mais l'autre point qui est important, c'est lorsqu'il dit très bientôt, je ne sais pas exactement à quoi il réfère comme étant très bientôt. Alors, s'il parle il y a dans quelques semaines, moi, j'aurais des réticences importantes, justement. Si on parle dans quelques mois, en tout cas, du point de vue virologique, possiblement, mais comme on le sait, il y a aussi énormément d'autres aspects à l'utilisation d'un passeport, et ça, justement, on entend parler, autre que, évidemment, transmission du virus. Mais en ce moment, je crois que ça serait peut-être... Et vous savez, on compare avec l'Israël, mais on n'est aucunement comparable au niveau du
taux
de la campagne vaccinale est rendue aucunement à un point auquel est rendu Israël. Alors,
dans notre... Mais eux, ils ont quasiment fini, puis nous, on commence, en fait, c'est ça.
Donc, rappelons-nous, là, il y a quand même quasiment fini, c'est qu'ils sont très bien avancés, surtout pour la première dose. La deuxième dose va suivre. Et aussi, quand même, Israël a une infrastructure qui est différente de la nôtre. C'est un petit pays, donc les gens sont concentrés à des endroits. Donc, il y a probablement une distribution qui est plus facile, mais n'empêche que lorsqu'on se compare de la sorte, eh bien, il faut quand même aussi mettre les choses en perspective, dans le sens que nous, la population québécoise et la population canadienne n'est aucunement reçu le vaccin au même pourcentage qu'en Israël. Alors, d'y aller de l'avant puis d'émettre ces fameux passeports-là immédiatement, plutôt qu'attendre peut-être plus un nombre plus élevé de mois. Il ne faut pas oublier que là, en ce moment, on vaccine les adultes et les personnes âgées, mais on ne vaccine pas les jeunes parce qu'en effet, les données ne sont pas disponibles. Alors, vous avez beaucoup d'étapes qui doivent être franchies avant qu'on soit dans une situation plus confortable et qu'on dit on a un pourcentage élevé de la population qui est vaccinée et que là, en effet, on peut alléger les conditions. Mais je ne suis même dans cette condition-là, je ne suis pas sûr si le passeport serait un atout, un outil qui serait très utile. Et moi, j'ai encore une certaine réticence face à l'utilisation d'un passeport dans le contexte actuel, surtout, mais aussi de plus tard.
Benoît Barbeau, vous restez avec nous. Benoît Barbeau est virologue. La question que je vous pose, les amis, est-ce que, d'après vous, le passeport vaccinal, ça peut être une des solutions pour qu'on puisse revenir rapidement à une certaine normalité? Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous avez des réticences? Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. 514-790-9850, ça c'est dans la grande région de Montréal. Et pour tout le Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Un passeport vaccinal, est-ce que ça peut être une solution pour revenir à une certaine normalité? Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour, Isabelle.
Comment vous voyez ça, vous?
Moi, je suis complètement pour. Et deux éléments dont vous aviez des discussions précédemment en versus du H1N1.
Oui.
Il a fallu que je présente un papier officiel de vaccination parce que je suis allé aux Jeux olympiques à Vancouver en 2010 et mon employeur exigeait le papier avec les tempes pour le H1N1. Mais le point le plus principal
dans votre passeport, ça, ou je comprends?
Non, c'était dans mon carnet de vaccins du Québec. Puis, par contre, pour le passeport vaccinal, ça existe déjà. Il y a une carte jaune qui a été mise par l'Organisation mondiale de la santé pour le vaccin de la fièvre jaune. Mm-hmm. Donc, plusieurs pays exigent obligatoirement ce passeport-là avec la preuve de vaccination fièvre jaune si on voyage dans des pays à risque.
Oui, tout à fait. Ben ça, c'est sûr qu'il y a selon la liste des pays, selon le pays, selon les maladies là, les plus fréquentes dans certains pays, on peut vous demander tel ou tel vaccin. C'est sûr qu'en Asie, souvent en Inde, par exemple, si vous voulez aller en Inde, ça prend le vaccin contre la fièvre jaune. Mais là, de ce dont on parle, ça serait comme vraiment un document électronique. Il y en a qui vont même dire tout votre carnet de santé pourrait être à l'intérieur parce que selon le pays, ça peut devenir compliqué. Les pays n'ont pas toutes les mêmes règles en matière de virologie, de vaccins. Et n'est-ce pas? Merci, Sylvain, de ce commentaire. Benoît Barbeau, peut-être vous pouvez renchérir là-dessus. On parle vraiment d'un document ici avec un code QR, là, où il y en a même qui vont dire tout le document, quasiment tout le document de santé pourrait être là-dedans, ce qui pose des grandes questions éthiques, d'ailleurs. Là.
Ben, je pense que oui. Donc, c'est des documents qu'il y aurait quand même ça pourrait être complet. Encore là, il va falloir attendre un peu les détails du gouvernement, qu'est-ce qu'ils comptent. Qui ont indiqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, le virus auquel on... Il y a différents virus, différents vaccins très efficaces qui existent, en effet, comme lorsque vous voyagez, que vous allez dans le sud, on vous demande justement d'obtenir tel vaccin. Le vaccin contre le virus de la fièvre jaune, en effet, existe, est très efficace. Mais là, en ce moment, on a affaire avec un nouveau virus qui, lui, se transmet énormément efficace et à travers toute la planète. Et là, on lutte contre ce virus-là, qui aussi génère des variants et qui s'adapte. Donc, on a eu un impact majeur au niveau économique, au niveau de la santé. Il faut, et les vaccins qui sont disponibles en ce moment, on sait qu'ils sont efficaces, du moins pour protéger les personnes de développer des symptômes trop sévères. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu actuel est de limiter la propagation du virus. Et puis, les vaccins sont efficaces, mais il ne faut pas tomber aussi un peu dans une situation où on aurait plus une certaine sentiment de sécurité et puis qu'on, justement, on ouvre un peu plus les portes en fonction d'un tel passeport qui serait disponible. Parce que on n'a pas toutes les données actuelles pour savoir à quel point on peut limiter la propagation du virus. Avec tous les efforts qu'on a faits, je crois que le passeport, la solution actuelle envisagée au Québec, si on la met de l'avant trop rapidement, on pourrait créer plus de problèmes que de solutions. Mais je comprends l'avantage que ça peut apporter, mais il y a des désavantages qu'il faut certainement considérer dans cette décision.
On a Joe qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bon matin à vous deux. Écoutez, félicitations pour votre émission. Moi, j'appelle deux choses. Première chose, je suis contre ça. Je vous explique pourquoi. Votre collègue, un matin, à Paul Arcand, la personne l'a très bien dit. Tu sais, on est dans une province progressive, moderne et tout. Puis, en imposant un passeport comme ça par rapport au vaccin, c'est comme un style de communiste. Excusez mon langage un peu, mais moi, je me souviens dans le temps, si on parlait de cette manière-là, comme de communiste, en aller vers une situation comme ça, il y aurait beaucoup de gens qui se le feraient dire. Mais aujourd'hui, c'est comme, mais c'est normal, on peut en parler, on peut mettre ça sur la table. Je trouve ça bien dommage de notre gouvernement qui s'en va vers une situation communiste au lieu de progressif. Puis, deux choses, moi, c'est un travailleur essentiel parmi des milliers qui traversent les frontières. Je peux vous dire que nous, là, bon, on se fait imposer des applications en ce moment qu'il faut remplir encore, puis si, puis là, en plus, un passeport qu'il va nous falloir. Écoutez, aux États-Unis, là, ils parlent même pas de ça en ce moment, puis ils sont 360 millions de personnes, puis on traverse leur côté, on va dans les magasins, ils ont des masques, on se lave les mains en rentrant, ça soit dans les truck stops ou peu importe, ils ont la situation sur contrôle en ce moment. Je verrais pas pourquoi que notre gouvernement au Québec, dans la province au Québec, qui s'en irait vers une situation communiste. Merci. Je suis totalement contre ça. Merci beaucoup.
Merci à vous, Joe. C'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup d'experts, d'éthiciens, de bioéthiciens qui regardent la situation puis qui en viennent à la conclusion ou surtout qui lancent l'alarme, qui disent attention parce que cette pandémie a amené beaucoup d'iniquités. Puis là, c'est à un niveau plus international, si vous voulez, mais je disais dernièrement qu'on n'a jamais autant atteint aux droits et libertés des individus, des citoyens, que depuis les 12 derniers mois avec cette COVID. Alors, sans tomber dans le complotisme conspirationniste, faites vos recherches, là, il en reste pas moins que c'est vrai, en temps de pandémie, on restreint les droits des individus. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un passeport vaccinal? Est-ce que ce passeport-là peut être perçu, comme vient de le dire pour Joe? Pour lui, c'est bien clair, c'est une atteinte à ses droits et libertés. Mais c'est vrai que si vous devez montrer patte blanche, c'est-à-dire ce passeport-là, ce passeport vert, certains l'appellent comme ça, pour pouvoir assister à des concerts ou pour voyager, il y a une iniquité là en partant. On a Denis qui nous écoute. Denis, vous êtes plutôt en faveur de ce passeport?
Bien sûr, je suis très en faveur parce que d'autant plus, il ne faut pas oublier que on est un pays qui aime voyager, on aime beaucoup beaucoup voyagé et le monde aime beaucoup venir dans notre pays. Alors, c'est sûr que les compagnies aériennes et les compagnies, les pays vont nous exiger des passeports pour la preuve. Tout comme quand je vais en Afrique, la preuve de la pierre jaune, je suis obligé de montrer mon petit papier avec mon carnet de santé tout. Mm-hmm. Puis, c'est sûr qu'en ce moment, ils vont exiger. Mais qu'est-ce que je déplore dans tout ça? C'est pourquoi attendre encore, attendre, toujours, toujours attendre. On a attendu avant de fermer les frontières, on attend tout le temps, on est bien tout le temps en arrière de tout le monde, puis regarde qu'est-ce qu'on arrive.
Ouais, merci beaucoup. Merci, Denis. Les gens parlent beaucoup là, du vaccin de la fièvre jaune. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui allaient en Asie. Mais une chose est sûre, c'est que ça, c'est un petit document que vous avez avec votre carnet de santé, qui est un papier. Là, qui c'est pas aussi invasif, je dirais, dans vos droits ou dans votre dossier personnel. C'est quand même assez intime, un dossier de santé, là, Benoît Barbeau.
Oui, oui, en effet, je veux dire, on peut aller chercher beaucoup d'informations. Donc, je peux pas vraiment vous parler en détail, justement, sur l'aspect invasif au niveau des droits personnels, mais les droits individuels, mais c'est certain que vous pouvez aller avoir quand même une certaine quantité d'informations. Le document ou le passeport peut être limitant en termes d'informations qui peut être disponible. Mais je voudrais juste revenir sur le point que, vous savez, en ce moment, oui, on a tendance à limiter. Nos frontières demeurent encore fermées. Puis la raison pourquoi que nos frontières sont fermées avec l'étranger aussi, à l'international, mais également la frontière canado-américaine est encore fermée, à part évidemment tout ce qui est essentiel, c'est qu'on veut limiter le transfert et le transport du virus, justement, avec toutes les idées des variants. Et je reviens souvent avec les variants, l'admets. Mais aux États-Unis, en ce moment, on entend parler pleinement. Il semble avoir une diminution, en effet, du nombre de cas, mais ils sont sur la. Il y a une alarme en ce moment qui a été sonnée par rapport à ces variants qui ont été identifiés en Californie et plus récemment, depuis hier, je crois, à New York. Alors, vous savez, c'est quand même des informations qui sont importantes. Et puis, il faut éviter au maximum que nous, on soit confrontés avec des problèmes similaires s'il y a entrée de ces variants. Et c'est pour cette raison-là que
l'alerte a été sonnée, là. Rappelez-nous un peu, parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que les variants, oui, sont contagieux, mais sont peut-être moins forts. Ils touchent peut-être moins la santé des gens.
Le problème des variants en ce moment, plus particulièrement celui de New York et de Californie, c'est qu'ils seraient aussi, en ce moment, moins facilement neutralisables par nos vaccins.
Oui.
Alors, vous savez, il y a l'aspect où on se dit, oui, en effet, une personne est protégée au virus, a reçu le vaccin. Et c'est vrai, en ce moment, on a des vaccins qui sont très efficaces, même pour la majorité des vaccins, des variants. Mais il y a des variants qui démontrent déjà une capacité de contrer cette protection. Et puis, si vous ouvrez cette porte-là, à ce moment-là, sachez que les variants vont pouvoir évoluer vers une capacité encore plus forte d'être résistant face au vaccin. Alors, c'est certain qu'on ne sait pas exactement à quel point ça pourrait nous arriver, que ça pourrait arriver soit aux États-Unis, même ici, localement. Mais le but, quand même, du vaccin, c'est au moins de se protéger les personnes vulnérables et on espère aussi d'empêcher le niveau de transmissibilité. Mais il faut ne pas exagérer et permettre justement l'entrée de variants qui sont déjà identifiés aux États-Unis, entre autres, et à d'autres pays où que le virus a extrêmement frappé ces pays au niveau de la santé, au niveau du nombre de cas d'infection, et d'amener justement, d'apporter ces virus-là dans notre province et faire en sorte qu'on aurait des nouveaux cas d'éclosion, mais avec des variants qui sont plus problématiques.
Qui sont plus problématiques, ouais. Je lisais, c'est intéressant la question des variants, puis toute la question des virus et de la mutation. Je disais dernièrement que la mutation d'un virus, par exemple, fait en sorte qu'il s'affaiblit quand même. Le virus original s'affaiblit à chacune des mutations. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut le vulgariser, qu'on peut le résumer, vous diriez, Benoît Barbeau?
Non, en fait, ce que vous devrez comprendre, c'est qu'un virus, lui, le virus de la COVID-19 est rentré dans la population humaine avec son bagage génétique. Et il a été capable de se propager assez rapidement et d'être transmis efficacement. Au fur et à mesure qu'il se reproduit, bien, il crée, il y a pour les différents virus, ce qu'on appelle la progéniture. Donc, il va y avoir une mutation, un changement qui va se faire ici et là de façon aléatoire. Et certains, en effet, ne seront pas capables d'être infectieux ou vont être moins efficaces. Mais cependant, certains des changements vont en fait leur conférer un avantage. Et puis, à travers tout, si vous permettez au virus de se reproduire activement à travers la population humaine, ce qu'on a vécu justement dans les derniers mois, eh bien, vous allez avoir certains de ceux-là qui vont avoir même plus d'avantages, être plus facilement transmissibles. Alors, il y en a eu un changement dès le départ qui est très important, qui a fait en sorte que le virus qui circule en ce moment a un changement bien particulier qui lui permet de se transmettre. Mais on voit en ce moment d'autres changements comme le variant du Royaume-Uni, du Brésil et l'Afrique du Sud sont plus facilement transmissibles parce qu'il y a d'autres changements qui s'ajoutent. Alors, c'est comme si dans le fond, vous avez un système, un processus d'évolution où que le virus, pendant qu'il se reproduit, qu'il infecte d'autres personnes, s'adapte. Et pour arriver jusqu'à un moment où il y a certains variants qui ont des avantages sur les autres et qui vont en fait mieux se reproduire. Mais ça, c'est au niveau de la transmission. Là, en ce moment, on a des campagnes vaccinales, on a des gens qui ont été déjà infectés. Il y a une autre pression qui est comme enclenchée, qui fait en sorte que les virus vont aussi être en mesure justement d'être confrontés face à cette pression et aussi de se sélectionner pour être encore mieux adaptés face que ça soit à une certaine population humaine qui a été infectée une première fois.
Mais ça finit quand? Ça finira quand, Benoît Barbeau, à ce moment-là?
En fait, écoutez, on est capable, selon moi, le virus, la COVID-19, n'est pas aussi apte à muter que le virus d'influenza. Le plus agressif qu'on peut être, le plus aussi en limitant au maximum les nouveaux cas d'infection. Donc, on vous demande continuellement, malgré la campagne vaccinale, de rester, d'avoir une distanciation, de laver vos mains, de porter le masque, pour limiter le nouveau cas d'infection. Alors, si vous avez le moins possible de personnes qui sont infectées avec des vaccins qui demeurent efficaces, ce qu'on peut envisager, c'est qu'éventuellement, on va contrôler activement le virus et on va faire en sorte qu'il va être diminué dans sa transmission, on va être dans une condition beaucoup plus favorable. Et c'est pour ça qu'en ce moment, le fameux passeport, c'est quand même, il faut y réfléchir et il y a quand même des désavantages à arriver avec un passeport qui pourrait permettre à des gens d'avoir des libertés accrues et qui pourrait occasionner des problèmes importants, entre autres avec les variants qui circulent.
Bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Benoît Barbeau, virologue, professeur au département de sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. C'est toujours intéressant. En plus, on apprend plein de choses sur les variants aussi. Je pense qu'il faut se tenir au courant, bien comprendre comment ça marche, ce vaccin-là, parce que quand on comprend mieux les règles et l'importance de les suivre. Tout de suite après la pause, on va essayer de voir aussi avec Steve Waterhouse, notre spécialiste en sécurité informatique, ce que ça sous-entendrait d'un point de vue technologique que d'ouvrir comme ça notre dossier de santé, de permettre au pays d'avoir de l'information sur les vaccins, sur notre état de santé en général d'ailleurs, parce qu'il y en a qui voient large, il y en a qui estiment que carrément notre dossier médical pourrait être sur ce genre de plateforme à la disposition et surtout à la vue là, des pays. Alors, vous me dites comment vous voyez ça, vous, un passeport vaccinal, êtes-vous pour, êtes-vous contre? À tout de suite, tout le monde. J'ai Louise, puis j'ai Fernande qui me confirme que pour aller aux États-Unis dans les années 2009, il leur a fallu une preuve de vaccination de la grippe H1N1 pour aller voyager aux États-Unis. Sincèrement, sans doute, peut-être des gens qui devaient montrer à partir d'un certain âge, peut-être, mais sincèrement, je vous jure, là, on a vérifié encore ce matin, pour la population en général, on n'a pas retrouvé trace de ça. Est-ce que c'était pour les snowbirds? Est-ce que c'était... Donnez-moi un petit peu plus d'informations là-dessus, mais sincèrement, ici, là, l'équipe, on a tous voyagé pendant ces années-là et personne n'a dû montrer un certificat de vaccination obligatoire H1N1 pour sortir du pays ou rentrer au pays. Ça, sincèrement, je tombe des nues là-dessus. J'ai dû voyager illégal, si c'est le cas, mais il me semble que les douaniers me l'auraient dit. On a Samuel qui nous appelle. Il a 19 ans. Bonjour, Samuel. Vous semblez être en faveur du passeport vaccinal. Comment vous voyez ça, vous? Parce que beaucoup de jeunes m'écrivent puis ils me disent, hey, moi, si je veux aller voir un show, je vais être obligé cet été de montrer mon passeport vaccinal. Comment vous voyez ça?
Ben moi, je vois ça comme c'est une bonne idée pour d'autres pays, ça je peux comprendre. Mais à l'intérieur de notre propre province, j'ai un peu de la misère parce que je vois que le dernier est vacciné. Fait que tout l'été, je ne peux pas aller au restaurant, je ne peux pas aller au gym. Puis moi, même si mes parents sont vaccinés, ils ont 40 ans. Si jamais de la COVID, ils sont protégés. Puis moi, je ne suis pas à risque vraiment.
Mm-hmm. Donc, finalement, vous n'êtes pas forcément en faveur, par exemple, ce que nous disait le ministre de la Santé ou même le docteur Arruda. On a un extrait, d'ailleurs, de ce que disait le docteur Arruda. Si vous voulez bien, on va réécouter ce que disait le directeur national de la santé publique, justement, avec le festival cet été, les activités, les spectacles. Comment il voit ça? On l'écoute.
L'élément le plus crucial va être la proportion d'individus vaccinés, mais on va devoir probablement encore, particulièrement en début d'été, parce qu'on n'aura pas encore terminé toute notre campagne de vaccination, avoir certaines mesures de distanciation, peut-être de port du masque ou des mesures là, comme on fait actuellement, là, de maintenir la distance, d'éviter des expositions, des rassemblements d'individus. Je pense qu'on va être encore dans cette dynamique-là, mais on va tout faire pour être inventif, comme peut l'être le Québec, pour permettre aux gens là aussi d'avoir un été.
Fait que, voyez, permettre aux gens d'avoir un été, le ministre de la Santé semblait dire, lui, que, en tout cas, il regardait sérieusement le passeport vaccinal. On parle beaucoup d'Israël. Il y a d'ailleurs des gens là, qui ont montré leur passeport vaccinal avec un code QR. Ça prouve qu'ils ont été, donc, ils ont été vaccinés contre la COVID. Et là, donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent participer à des concerts réservés aux personnes vaccinées. Est-ce qu'on va avoir donc deux classes de citoyens, ceux qui vont pouvoir aller vaquer à leurs occupations parce qu'ils sont vaccinés, et puis les autres, les non-vaccinés? On vient d'entendre Benoît Barbeau, qui était quand même assez convaincant, notre virologue, qui disait, attention, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'êtes pas contagieux. Ça vous protège, vous, mais ça vous protège pas de le donner à quelqu'un. Et vous savez, moi, je suis toujours fascinée par ce chiffre. Après plusieurs entrevues, ça m'avait marqué d'apprendre que les super contaminateurs, vous savez, s'il y en a, là, ils sont plus... C'est des gens qui vont... Ils sont asymptomatiques eux-mêmes et ils vont le donner plus fort aux autres. Et ça, on dit qu'il y a vraiment comme beaucoup de cas de gens qui attrapent la COVID, de ces super contaminateurs, qui sont peu nombreux, mais qu'ils donnent à plus de gens que les autres. Alors, il faut prendre ça en conséquence. Moi, je pense que Benoît Barbeau a été clair là-dessus. Un passeport, c'est pas la finalité et il faudrait certainement pas que ça nous donne un faux sentiment de sécurité. Merci, Samuel. On va aller voir ce que notre spécialiste en sécurité informatique en pense. Sécurité, justement, c'est dans le titre. Steve Waterhouse, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
Faux sentiment de sécurité en matière de santé et de transmission du virus. Ça, c'est un risque que notre virologue nous a bien expliqué. Est-ce qu'il y a un risque aussi pour notre sécurité en tant que citoyen? Il y a toutes les questions d'éthique là-dessus, Steve, qui se posent. Quand le ministre de la Santé nous a dit on a des équipes là, informatiques qui se penchent déjà là-dessus, faut-il s'inquiéter, Steve?
Ben, au même titre que Isabelle, rappelons-nous quand on a parlé de l'application COVID Alert là, l'année dernière, tout le monde misait beaucoup là-dessus, puis moi j'amenais le poids, hein, je veux dire, ça va être un faux sentiment de sécurité qui va être dégagé avec cette application-là. Or, on est un an plus tard, quasiment un an plus tard, et après coup, maintenant, on est juste 6 mois déjà, ça va vite,
oui.
Mais qui fait en sorte que l'application, elle n'a pas dégagé, elle a informé des gens, beaucoup de gens qui ont mis quand même le code fourni par le service santé, ils ont été capables d'informer. Mais le gouvernement canadien, comme québécois, ne donne pas les statistiques comme comment que des gens... Oui, ils disent « Ah, il y a eu 6 millions de téléchargements, mais comment est-ce qu'il y en a de ces applications-là qui sont en fonction? » Mais ça n'a pas dépassé, qu'on m'a dit, le cap, justement, du 20 % d'adoption de la population, alors que le plus haut taux dans le monde, c'était 40 %. Fait que ça, c'est un outil.
Mais ça, c'était pas obligatoire, en plus. Tu pouvais y aller, tu pouvais te le télécharger si ça te tentait, mais bon, au bout d'un moment, moi, je me l'étais téléchargé, puis tellement inutile que j'ai vite enlevé ça de mon téléphone cellulaire. On a tellement d'applications. Mais le passeport vaccinal électronique, est-ce qu'on veut vraiment ça?
Bien, déjà, ça fait 20 ans, Isabelle, qu'on cherche à avoir une identité unique nationale, puis personne ne s'entend là-dessus. On a le passeport canadien, qui est le passeport universel pour voyager à travers le monde, mais une carte d'identité, il n'y en a pas. Alors, tout le monde, par défaut, se rabat sur le permis de conduire ou la carte d'assurance maladie, qui ce ne sont pas des pièces d'identité publiques. Mais tout ça pour dire, là, tout d'un coup, on va arriver avec une pièce d'identité que l'OACI travaille déjà depuis 2019 à pouvoir globaliser, et là, ils vont rajouter la composante de santé sur le passeport électronique. Fait que oui, il y a une infrastructure qui commence à se mettre en place. Elle n'a pas été été testés complètement. Ils ont fait un essai en Estonie parce que eux autres, l'identité numérique, ça fait quand même bonne haleine et c'est tout intégré dans leur société. Par contre, il y a des places, des pays comme l'Allemagne, la Hollande et l'Espagne, qu'eux autres sont encore en train de se gratter la tête puis ils sont ambivalents parce qu'ils font justement la, ils questionnent l'éthique, la légalité, la protection des données personnelles, la protection du citoyen parce que c'est une occasion en or de prendre à ce moment-là beaucoup d'informations, enlever des cloisonnements qu'on a pris tellement d'années à mettre en place pour protéger l'intégrité
ben,
des citoyens.
Oui, exactement. Moi, ça m'inquiète, Steve. Tu vois, je disais aux auditeurs d'entrée de jeu tout à l'heure, au début, tu te dis, ah, un passeport vaccinal, au moins pour voyager, ça te claire d'une certaine façon ton statut. Puis finalement, tu y penses, puis tu dis, attendez, avec un code QR, là, je suis plus sûre que ça me tente, tu comprends? Puis pendant qu'on y est, voulez-vous nous dire, êtes-vous gay? Êtes-vous cisgenre? Êtes-vous, tu sais, c'est quoi les autres maladies que vous avez? Quels sont les médicaments que vous prenez? Puis, tu comprends? Tout ça, là, hein? Non, je veux pas que tu sois au courant de mes affaires personnelles.
Ben, je vais te donner un exemple assez facile. Il y a une compagnie au pays, ici au Canada, qui a commencé à faire ce genre d'implantation-là dans des commerces et de toutes sortes d'organisations à travers le pays. C'est Canatrace. C'est une compagnie qui est basée à Toronto, mais que c'est une compagnie de marketing.
Mm-hmm.
Fait qu'eux autres, qu'est-ce qui les intéresse, le marketing? C'est de documenter, c'est d'avoir des données, puis les revendre, puis après ça, manipuler ça. Fait que présentement, il y a au-dessus de 4000 entreprises qui ont décidé de prendre le service. Et là, quand tu rentres en place, oui, tu prends avec l'application, une photo du code à bord, code QR qui est à l'entrée, et ça donne à ce moment-là à cette organisation-là l'effet de savoir que hey, telle personne s'est enregistrée, puis il est là, si jamais il y a une éclosion, on peut l'avertir. Ça, c'est le concept de base, c'est la ligne de fond. Mais fondamentalement, ça aide aussi à faire pour eux autres une documentation spécifique, puis c'est de la revente de données. Fait que là-dedans, ils disent toujours non.
Sais-tu quel est leur... Je suis allée sur le site, là. Sais-tu quel est le... Ben oui, recherche de contact grâce à un seul balayage. Canatrace est une solution gratuite, rapide, sécuritaire, bilingue, permettant aux entreprises de collecter des renseignements sur leurs clients. Hey! C'est quelque chose. Et sais-tu quel est leur slogan? Keeping Canadians safe.
Oui, c'est la ligne officielle que ça va attirer tout le monde, la sympathie, puis dire l'acceptation quasiment automatique de dire « Ah, c'est pour notre sécurité. »
OK, ben, bouge pas. Regarde... bouge pas, Steve. Et là, il faut absolument que j'aille à la pause. Il y a trop d'affaires ce matin. C'est super important. On revient avec toi tout de suite après et quelques auditeurs. Je suis en compagnie de Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité informatique. Donc, le passeport vaccinal, c'est une bonne idée qu'on s'intéresse à la chose. Mais est-ce que c'est une fausse bonne idée? C'est un peu ça, finalement, Steve, qu'on se demande aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, en plus, là, Diane m'écrit ça, elle dit, moi, les gens âgés autour de moi, ils n'ont pas forcément de cellulaire. Ils vont recevoir leur code QR de vaccination par la poste, version papier. Comment ça va marcher? Est-ce qu'on aura un collant qu'on va apposer sur notre carte d'assurance maladie? Puis elle est convaincue qu'il y aura de la triche. On a vu, là, il y a eu tout le débat sur les faux tests de COVID pour revenir au pays, ce qui nous a amené finalement à se faire imposer une quarantaine. Donc, elle dit les gens vont copier les codes QR. Bref, c'est pas simple quand même à implanter cette technologie, surtout que le gouvernement semble être très, très, très pressé, là, Steve.
Oui, puis déjà en Israël, on dit qu'ils sont progressistes et tout, ils sont en avance sur tout le monde, mais il y en a déjà eu justement la falsification de code QR la semaine dernière qui a été repérée. Fait que c'est pas comme si c'était un nouveau phénomène, ça va être comme ça. On veut développer un outil intéressant, vrai, mais c'est pas une mesure là, qu'on peut faire du jour au lendemain, deux fins de semaine. Puis ça, je faisais référence avec la carte d'identité. Ça fait 20 ans qu'on n'en a pas toujours, mais que là, en 3-4 fins de semaine, tout le monde va se dire « Hey, on se met ensemble pour faire cette solution-là pour la COVID, voyons.
Mm-hmm. »
C'est pour ça que faut le faire, mais il faut le faire intelligemment. Puis oui, les débats de société sont absents présentement, puis c'est ça que je trouve dommage,
ouais.
Parce qu'il y a lieu à ce moment-là d'amener les pour et les contre, puis de prendre la meilleure des décisions, comme que le gouvernement Legault a fait avec l'application COVID, puis on était une des seules
ouais.
démocraties qu'il l'a fait, cet examen-là. Puis ça, félicitations. Mais là, il faut faire aussi la même chose avec
oui.
ce genre de...
Oui, j'aime bien le... Ouais, tu dis démocratique. C'est effectivement un exercice qu'il faut faire dans le respect de la démocratie et des droits des gens. Il ne faudrait pas que les citoyens voient leurs droits brimés. Moi, ça me paraît assez important. Beaucoup de gens là, qui me disent, effectivement... Ben, Micheline me dit, j'ai déjà eu en ma possession un document qui attestait que j'avais été vaccinée contre le H1N1. C'était pour Cuba. Il semble que Cuba, à une certaine époque, là, au plus fort de la grippe en 2009, l'ait demandé. Des gens aussi qui étaient propriétaires de condo en Floride me disent qu'à Plattsburgh, c'était bien de l'avoir. C'était pas forcément exigé, mais les agents de voyage disaient, peut-être, si vous avez une preuve de vaccination, ça va vous aider. Julie nous appelle là-dessus, justement. Bonjour, Julie.
Oui, bonjour. Donc, moi, c'est ça. En 2009 aussi, j'avais voyagé. Là, je travaille pour une compagnie aérienne. Donc, ouais. En 2009, on est allé en Jamaïque. Puis, c'est ça. C'était pas tous les pays qui le demandaient, mais la Jamaïque, c'était obligatoire d'avoir notre preuve de vaccination.
Avec et c'était quoi? Rentrer. C'était un papier, Julie, ou c'était comment? Oui. Oui, c'était juste un petit papier.
C'était un papier qu'il fallait avoir avec notre passeport là, pour pouvoir rentrer au pays. Les amis qui étaient venus avec nous en voyage ne se font jamais vacciner pour la grippe, mais cette année-là, justement, il y a toute famille qu'on a se faire vacciner pour pouvoir voyager. Là.
Ouais. Ouais. Voilà. Ben merci cette précision-là, Julie. Steve, là, maintenant, 12 ans plus tard, on n'est plus au petit bout de papier qu'on trimballe dans son passeport. On est carrément à la technologie, une technologie qui pose beaucoup de questions quand il s'agit de son dossier de santé, là.
Effectivement, parce que on n'a toujours pas exemple ici au Québec un dossier santé qui est robuste avec lequel on s'y les médecins, la partie médicale s'y réfère, oui, mais en même temps, pour le citoyen, il peut-tu avoir de façon confiante accès à son dossier? C'est ambivalent encore, autant qu'il y en a qui vont dire oui, on va au portail, c'est toujours là. Mais les données sont encore des fois en retard, puis l'administration de ces informations-là n'est pas tout à fait à point. Fait que c'est pour ça que j'ai pour montrer que quelqu'un va se présenter. Un spectacle, quelque chose avec son code QR, il va être interdit puis il ne saura même pas.
Ah ouais, écoute, non, on n'est vraiment pas. Il faut se poser d'autres questions là-dessus. C'est un gros dossier délicat. Merci beaucoup, Steve Waterhouse. On va s'arrêter ici, les nouvelles.